Nous allons revenir sur cet épisode du 2 février dernier, la présentation de notre Seigneur au Temple. Mais commençons peut-être par nous confier au Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, l'âme de l'Église, toi, le maître intérieur des chrétiens dans la prière, toi, celui qui appelle les vocations dans les familles, dans les paroisses, dans l'Église universelle, viens souffler en nous, viens nous éclairer et nous fortifier. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu Très-Haut, source vive, feu charité, invisible consécration. Tu l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard. Sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Fais-nous connaître Dieu le Père. Révèle-nous le Fils, et toi leur commun esprit, fais-nous toujours croire à toi. Amen. Frères et sœurs, dans l'évangile de la présentation de notre Seigneur Jésus au Temple, précisément dans le chapitre 2 de Saint Luc, au verset 22 jusqu'au verset 39, il nous est donné d'entendre la présentation de Jésus au Temple. Il est offert par ses parents comme un premier-né, comme un consacré selon la loi de Moïse. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, on avait l'habitude d'offrir les prémices, d'offrir ses enfants à Dieu, ses premiers-nés. Et Jésus est donc il est comme un religieux offert par ses parents. Et l'Église a fait de cette présentation de Jésus au Temple la fête de la vie consacrée. Et donc, beau de méditer cela, de le recevoir comme un cadeau. Je dis souvent que la vie consacrée est un cadeau pour ceux qui sont appelés, pour l'Église universelle, mais même pour ceux qui sont appelés au mariage. Pourquoi je dis cela? Tout d'abord parce que l'Église a en grand respect la vie consacrée. Dans la tradition spirituelle de l'Église, comme dans sa tradition dogmatique, dans son magistère, l'Église rappelle la valeur excellente de la vie consacrée. Je vais citer quelques exemples. Tout d'abord, saint Ignace de Loyola, qui, dans ses exercices spirituels, de saint Ignace, à la fin, quand on parle de penser conformément à ce que l'Église pense, il a un petit article très court où Ignace dit: il faut plus louer la vie consacrée que le mariage. Ça paraît étonnant qu'Ignace dise cela, et pourtant il invite le retraitant à se situer dans une logique plus grande encore pour la louange du célibat, de la vie consacrée, que le mariage. On va y venir. On a aussi dans Vatican II, le Concile Vatican II, cette tradition aussi théologique qu'on reçoit de foi dans le magistère, on nous parle de vie de perfection pour ce qui est de la vie consacrée. La vie religieuse, c'est la vie de perfection. On a encore dans le magistère du pape Saint Jean-Paul II, dans l'écrit qui concerne en plus la famille, la charte de la vie familiale, les tâches de la famille chrétienne, Familiaris Consortio, cette exhortation apostolique, il est dit à un endroit que la virginité est supérieure au mariage. C'est très étonnant de dire ça. Et puis encore, on connaît la tradition spirituelle qui nous rapporte, on parle de la vie consacrée comme un amour de prédilection particulier, comme si on était aimé de manière particulière par Dieu. Et pour encore creuser la chose, on peut renvoyer aussi à saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, où finalement saint Paul, qui parle du mariage, parle aussi dans le verset 25 au verset 40 de la vie consacrée, en disant: la femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et dans son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires du monde, elle cherche comment plaire à son mari. Celui qui est marié a le souci des affaires du monde, de plaire aussi à sa femme, il se trouve divisé. Et Paul ajoutera au verset 38 un verset qui paraît, on va dire, pas très habituel, on ne l'entend pas beaucoup. Ainsi, celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux encore. Donc on voit un peu cette gradualité, cette perfection propre à la vie consacrée, on pourrait dire cette supérieure d'état, cette supériorité d'état de vie. En aucun cas, les consacrés, les religieux, les vierges consacrées sont des supermen, des superwomen, puisque la sainteté, c'est au final ce qui compte, ce qui est premier, et c'est l'appel de tous. Mais l'Église nous dit, dans l'état de vie consacré, que ce soit dans saint Paul, dans la tradition spirituelle, dans le Concile Vatican II, dans saint Ignace, dans saint Jean-Paul II, que la vie consacrée a une forme de supériorité objective. Et quand on dit ça, ce n'est pas pour dénigrer le mariage qui doit aujourd'hui encore être promu, défendu, annoncé. Pourquoi on annonce ça? Que la vie consacrée a une forme de supériorité, de perfection objective. Parce qu'en fait, elle anticipe le royaume. Le consacré anticipe le royaume. Pour le dire autrement, l'union d'état de vie, au ciel, nous serons tous des consacrés. Un jour, une religieuse me disait, quand on meurt, on fait tous ses vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et au ciel, personne n'est marié. Ainsi, le Christ dit, nous vous serez comme des anges, quand il répond à la question d'un juif, qui lui dit qu'une femme a eu 7 maris, et avec lequel elle sera mariée au ciel, et le Christ lui dit, vous êtes comme des anges, c'est-à-dire les anges ne sont pas mariés, on est des consacrés. Bref, la vie consacrée anticipe le ciel. Elle est une anticipation du royaume. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a un signe eschatologique, du grec eschaton, qui veut dire dernier, elle anticipe les fins dernières. Et en fait, au ciel, qui est l'époux des âmes au ciel? C'est la Trinité, c'est le Christ. Ainsi, ici-bas, certaines âmes anticipent cette union avec Dieu en l'épousant dans la vie consacrée. Ainsi, la vie consacrée est immédiate dans l'état de vie, tandis que le mariage est médiat, c'est un compagnonnage, une union nuptiale, mais transitoire. On le voit bien quand on est veuf ou veuve, on peut se remarier, et on voit bien que le Seigneur nous dit, et la tradition spirituelle de l'Église nous le dit, au ciel, on n'est pas marié avec son conjoint, on est marié avec Dieu directement, on est consacré. Donc c'est en ça cet état de perfection qui anticipe le ciel, qui est d'une certaine manière plus parfait, plus désirable, plus absolu. Et il n'y a pas besoin d'un sacrement pour être consacré. Ce sacrement est basé sur le baptême, qui est quelque part la maximalisation de la vie baptismale, la vie consacrée. Je vous renvoie un texte, si ça, jamais ça vous intéresse, c'est cette belle charte qu'a écrit saint Jean-Paul II, Vita Consecrata, cette exhortation post-synodale sur la vie consacrée qui montre bien la grandeur de la vie consacrée. Et si des personnes voulaient creuser aussi un texte, alors le pape François a aussi écrit récemment, il y a quelques années, une lettre aux consacrés qui mérite d'être vue. Et puis je vous renvoie aussi sur le bienheureux Dom Marmion qui a été béatifié par saint Jean-Paul II, qui est un moine, qui avait écrit un très beau texte sur la vie consacrée qui est Verbi Sponsa, l'épouse du Verbe. Voilà, toutes les âmes sont épouses du Verbe dans l'absolu et la vie consacrée l'anticipe. Alors dire cela, pourquoi parler de la vie consacrée et pourquoi en parler à tous, même si tout le monde n'est pas appelé? Alors nous en parlons parce qu'effectivement, le 2 février dernier, l'Église nous a demandé de faire mémoire de la vie consacrée, de prier pour elle, de rendre grâce pour ce don-là, à la suite de Jésus-Christ consacré, présenté au Temple. Mais la vie consacrée concerne aussi, on pourrait dire, les mariés, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que ça concerne ceux qui se préparent au mariage. Discernez votre vocation. Peut-être êtes-vous appelé au mariage, mais peut-être avant, il faut discerner si vous n'êtes pas appelé à la vie consacrée, à être donné à Dieu. Et puis j'allais dire, ceux qui sont appelés au mariage et qui ont discerné qui sont bien appelés à ça, ils font un peu comme Louis et Élie Martin, les parents de Sainte-Thérèse, qui ont été canonisés en couple. C'est même le premier couple marié canonisé ensemble. Récemment, le pape François a canonisé une famille entière de martyrs, mais Louis et Élie Martin sont un peu le premier couple canonisé ensemble. Eh bien, dans leur histoire, Louis et Élie Martin ont chacun de leur côté été tentés par la vie consacrée, par devenir religieux, religieuse. Cela veut dire que leur couple, bien, et avec l'accompagnateur spirituel, une fois qu'ils étaient mariés, il leur a fait comprendre, l'accompagnateur spirituel, le prêtre, qu'il fallait quand même avoir des unions conjugales, qu'ils ne pouvaient pas vivre l'état de continence propre aux consacrés. Et de fait, ça donnera un certain nombre d'enfants, dont certains sont morts en bas âge, et ça donnera pas mal, une très belle famille, dont une sainte, Thérèse de Lisieux, d'autres enfants édifiants, et peut-être, nous l'espérons, prochainement, une nouvelle bienheureuse avec Léonie Martin. Mais Louis Ezélie, en fait, en ayant désiré pour un temps la vie consacrée, on pourrait dire, ça les a tirés vers le haut, ça a tiré vers le haut leur mariage. Et la vertu de la vie consacrée, en la désirant comme quelque chose de magnifique, au fond, tout le monde pourrait désirer la vie consacrée, c'est ce que nous dit Ignace dans les exercices pour le retraitant, louer plus la vie consacrée que le mariage, ça ne suffit pas de la négliger, le mariage, parce qu'il est beau, il est sanctifiant, c'est une œuvre de Dieu qui devient aussi une œuvre de rédemption et de sanctification dans le sacrement du mariage. Mais la vie consacrée, de désirer cet état, nous tire vers le ciel. C'est comme si on veut anticiper le ciel. Et qu'un laïc qui ait d'abord pensé à ça, et puis après se marie, qu'il soit appelé ou pas, ça le tire vers le haut. Et moi, je remarque combien faire contempler la vie consacrée, la possibilité de devenir un consacré, la grandeur de la vie consacrée pour des laïcs, des jeunes, hommes, femmes, mariés, enfin, des professionnels ou étudiants, et bien, d'une certaine manière, ça les tire vers le haut et ça leur permettra, s'ils sont appelés au mariage, à avancer radicalement vers le mariage pour désirer la sainteté. Bref, la vie consacrée nous tire de la terre pour nous amener vers le ciel. Elle est un panneau signalétique pour le peuple de Dieu, pour nous rappeler « Dieu seul suffit », comme dirait Thérèse d'Avila, « solo Dios basta », et donc nous rappeler l'essentiel. Donc ça a une vertu de contempler la vie consacrée pour tous les états de vie, et pas que ceux simplement qui sont appelés à la vivre. Deuxièmement, pour les éducateurs et les parents, une fois qu'on est marié, ça a une autre vertu, c'est d'éduquer les enfants à pouvoir s'offrir à Dieu, à pouvoir s'offrir peut-être dans un appel à la vie consacrée. Parce que si on ne leur présente pas cela, bien sûr Dieu peut intervenir, je dis souvent aux jeunes, il peut intervenir en wifi direct, mais bien souvent il a besoin d'éducateurs. Il a besoin, le Seigneur, qu'on présente aux enfants quelque chose de désirable. Si on ne leur parle pas du ciel, les enfants ne vont pas, par exemple, j'allais dire, éviter certains péchés, parce qu'ils oublieront le fait qu'on doit tous rendre compte à Dieu de notre vie. Et les enfants oublieront que ce qu'il y a de plus grand que les bonheurs temporels, c'est le bonheur du ciel. Et donc, dire le ciel, parler, proclamer de foi le ciel, c'est tirer le monde vers le haut, vers l'excellence, vers la vertu, vers la sainteté. Et parler de la vie consacrée, ça tire vers le haut, mais ça fait aussi émerger des vocations consacrées. Dans mon diocèse, il y a eu, parce qu'il est décédé depuis plusieurs années, hein, depuis des années, hein, plusieurs siècles, c'est le vénérable père Monroe, fondateur des sœurs du Sacré-Cœur et de Jésus, qu'on appelle les sœurs de Mormaison, qui est un Vendéen, c'est un prêtre qu'on a un peu comparé au curé d'Ars, qui a eu beaucoup de vocations sacerdotales. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il a les jeunes femmes, très jeunes, dans leur éducation, il s'est occupé de l'éducation autour des familles, et des familles pauvres, des enfants pauvres, et bien ce grand pasteur, j'allais dire, père de nombreuses vocations féminines et aussi de futurs prêtres, il a éduqué les jeunes femmes à se préparer à être mère de personnes consacrées, de futurs prêtres par exemple. Ça veut dire qu'on voit bien que dans l'éducation, éduquer les enfants à la question de la vie consacrée, c'est bon pour eux, c'est bon pour les générations chrétiennes, c'est bon pour tout le monde en fait. Et donc il faut le faire. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, et Joseph et Marie répondent à un précepte de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, à offrir leur premier-né à Dieu, à le consacrer. Donc dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, on a cette tradition de par la loi d'offrir le premier-né à Dieu. Avec le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, la loi est accomplie dans la personne de Jésus-Christ et on n'a pas ce précepte qui a été gardé. On pourrait dire que le précepte est insufflé par le Saint-Esprit. Et on pourrait dire comme Jésus, je dis souvent aux jeunes, on va faire une réponse à la Jésus, c'est comprenne qui pourra, qui voit qui est appelé, et puis voilà. Simplement, c'est quand même étonnant, on n'en parle pas souvent dans les familles de la question de la vie consacrée. On a parfois la pression des parents, des grands-parents qui aimeraient avoir des petits-enfants ou des enfants. Et bien, si on parle de Louis Ezélie Martin, on parlerait plus difficilement que M. Martin a offert toutes ses filles à Dieu dans la vie consacrée. Bref, le Saint-Esprit, si peut-être la loi de Moïse a été abrogée pour les chrétiens par rapport aux juifs, Malgré tout, le Saint-Esprit, il veut que nous collaborions à cette éducation à la consécration, à cette éducation au sein des familles, à la présentation de nos enfants au temple. Et si Dieu veut les prendre, il les prend. Si Dieu veut nous les redonner pour une vie de mariage et pour la génération, et pour les prochaines générations, eh ben c'est très bien. Et donc, j'invite les parents, les éducateurs à cette ouverture de cœur. Et j'invite tous les jeunes, qu'ils soient appelés ou pas à la vie consacrée, à considérer leur discernement, la vie consacrée, et à considérer cette grandeur qui doit être admirée et qui doit être stimulée. Je dirais aussi qu'elle doit être protégée dans le contexte peut-être des dérives de l'Église, ou le contexte, on pourrait dire, de la sur-sexualisation un peu hédoniste de la société, avec toutes ces dérives. Il est évident que la vie consacrée peut paraître comme quelque chose de louche. On pourrait dire, mais être célibataire pour le royaume, est-ce que quelque chose de vraiment épanouissant? Est-ce que finalement ce n'est pas un sacrifice trop coûteux et que l'Église, dans, on pourrait dire, sa discipline, ne devrait-elle pas se réformer? Eh bien, il faut rappeler quand même que c'est la vie même de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier religieux. La tradition de l'école française, à la suite du cardinal de Bérulle, du XVIIe siècle français, dirait que Jésus est le religieux du Père. C'est le premier religieux, le premier consacré. Et effectivement, Jésus a une vie épanouie. On ne peut pas dire que le Jésus qui est vrai homme, le modèle de toute épanouie, de toute humanité, n'a pas une vie épanouie. Et donc, je nous invite à considérer le célibat, à le défendre comme consacré, comme quelque chose de grand, quelque chose qui épanouit l'humanité d'un homme ou d'une femme dans toutes ses dimensions. La sexualité ne sera pas vécue dans l'union conjugale. Elle sera dans la continence, mais elle sera assumée pleinement, et il y a une éducation à assumer tout son être d'homme, tout son être de femme, pour avoir une maternité spirituelle ou une paternité spirituelle. Et on ne peut jamais atrophier quelqu'un qui se prépare à la vie consacrée dans sa dimension de fils, de frère, d'époux ou de père, ou de fille, de sœur, d'épouse ou de mère. Ça veut dire que la vie consacrée déploie d'une autre manière, on pourrait dire, selon le régime du ciel, une humanité. Et donc, ce n'est pas simple, la vie consacrée n'est pas, j'allais dire, à suspecter, elle est plutôt à défendre et à promouvoir. Et en le faisant, nous aiderons encore mieux à promouvoir le mariage, puisque la vie terrestre sera éclairée par une puissante lumière céleste, qui est la vie anticipatoire du ciel, vue dans la vie consacrée. À partir de tout ce qui vient d'être dit, et pour les quelques minutes qui nous restent, nous pouvons entendre l'évangile de Saint-Luc dans la présentation au Temple, chapitre 2, verset 22, à 40, comme je l'annonçais, le lire en l'écoutant dans la prière, et puis peut-être commenter quelques passages pour nous dire les enjeux aujourd'hui peut-être de la vie consacrée à la suite de ce passage de la parole de Dieu. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit-Saint, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, et ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage. Demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Et elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à 7 heures même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Avec ces quelques minutes qui nous restent, frères et sœurs, peut-être se dire, mais qu'est-ce que le texte, la parole de Dieu peut m'éclairer, moi éducateur, parent, grand-parent, jeune, par rapport à la vie consacrée. D'abord, je nous invite à une forme de générosité et d'action de grâce. À la manière de Siméon, ce prêtre de l'Ancien Testament, nous pouvons contempler tous ces vieux prêtres du Nouveau Testament, tous ces prêtres ordonnés de l'Église catholique, qui finalement, on pourrait dire, font confiance au Seigneur, que parmi tous ceux qu'ils ont baptisés, il y a des promesses, des gloires pour Israël, des gloires, on pourrait dire, pour l'Église, que sont les consacrés. Il y a parmi ces baptisés, que tous ces prêtres, on pourrait dire ces vieux Siméon, ont baptisé, il va y avoir parmi eux des consacrés, et qu'il est beau parfois de voir un prêtre qui accueille un jeune, un adulte, un professionnel, dire « Mon père, j'ai un appel à être consacré à Dieu ». C'est comme si on pouvait dire « Maintenant, maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car, maître, nous avons vu une lumière, une promesse pour l'Église et pour le monde ». Voilà, ça c'est quelque chose de beau, une action de grâce, une action de grâce. Et puis nous rappeler aussi que Siméon, et dans nous, l'Église catholique, les prêtres, offrent à la messe toutes les offrandes du peuple de Dieu. D'une certaine manière, le consacré et le futur consacré est offert par le prêtre à Dieu en action de grâce, en culte, en louange. Et puis, Siméon dit une parole forte à la Vierge Marie, voici que cet enfant, il sera un signe de contradiction. Alors la contradiction, ce n'est pas du tout cette période de l'adolescence que les ados vivent mal par rapport à leur éducateur, leurs parents, voire même par rapport à l'Église, qui en gros de faire le contraire de ce qu'on dit. Ça, c'est être un esprit contraire, provoquant. Non, la contradiction, c'est la logique du ciel par rapport à la logique de la terre. C'est-à-dire, le Seigneur nous invite à vivre selon le règne du ciel. Que ton règne vienne, nous disons dans notre Père. Et ce n'est pas selon le monde qui est gouverné par Satan, le prince de ce monde. Et donc la vocation consacrée, elle est un signe contradictoire parce qu'elle anticipe le règne du ciel, la Jérusalem céleste, la logique du ciel, et elle n'est donc pas forcément comprise du monde. Elle n'est pas forcément comprise de nos amis, de nos proches, de nos parents. Quand un jeune a une vocation consacrée, ce n'est pas toujours le cas, on ne le reconnaît pas forcément, on ne l'encourage pas forcément, parce que parfois la logique du monde est prégnante parmi les proches, et finalement les proches sont plutôt mondains. Ils vivent selon le monde. Et hélas, parfois, cela arrive même parmi des chrétiens que dénonçait le père de Montfort en son temps, que le pape François continue à dénoncer, c'est cette fameuse mondanité. Or, le signe de contradiction, il rappelle le prophétisme du primat du ciel. Et donc, c'est normal que dans le cheminement d'une vie consacrée, il y a comme un combat spirituel amplifié parce qu'il est un signe contradictoire. Et à la fin du texte, ce passage, en verset 40, il y a un petit verset qui est très bon pour les éducateurs. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà, je crois que les éducateurs, en plus de parler de la vie consacrée, de cette beauté aux enfants, de leur faire même désirer, regardez les enfants, c'est beau, pourquoi pas vous, pourquoi pas vous? Il y a un travail de participation à la grâce de Dieu qui est le travail de la nature, où Dieu invite les parents, les grands-parents, les éducateurs, les catéchistes, les prêtres, les religieux qui s'occupent de jeunes, de moins jeunes, à les aider à grandir dans les vertus, dans une forme de sagesse, dans une humanité bien construite. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, la grâce suppose la nature, elle ne l'enlève pas, elle l'amplifie, elle l'embellit, mais elle ne l'enlève pas. Et donc, d'une certaine manière, Dieu demande que nous travaillions des natures humaines, dans tout leur être, dans toutes leurs vertus, pour qu'enfin ils deviennent, plus tard, si Dieu le veut, des consacrés solides, avec une colonne vertébrale. Combien parfois de vocations appelées à la vie consacrée ou au sacerdoce sont un peu, on pourrait dire, molles, un peu aux formes molles, sans colonne vertébrale, parce qu'il leur a manqué une éducation solide humaine des vertus. Et là, on voit que Jésus, par Joseph et la Vierge Marie, grandissait et se fortifiait. Donc ça, c'est la dimension humaine. Et en même temps, et la grâce de Dieu, nous dit la fin du verset, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà, il y a ce travail aussi de Dieu dans le travail humain des hommes, des éducateurs. Le travail de Dieu passe, sa grâce. Et finalement, c'est même Dieu le premier éducateur. Donc j'allais dire, pour les jeunes, éduquons-les, pourquoi pas, à la suite du Père de Monroe, à la suite de Marie et Joseph, à la question de la vie consacrée, dès le départ. Et acceptons de faire notre travail, ne démissionnons pas de cette question-là. Mais en même temps, Dieu passe à travers nous, et rappelons-nous, Dieu est le premier éducateur. Et rappelons-nous aussi ce qui a peut-être été pour M. Martin, le père de Thérèse, un moment douloureux d'accueillir sa fille au Carmel, mais il l'a accepté. Rappelons-nous que les enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Et la Vierge Marie, qui a eu un seul enfant dans la chair, ce courage qu'elle a, c'est de l'offrir à Dieu. Et là, j'interpelle peut-être les auditeurs qui n'ont peut-être qu'un enfant, en se disant, mais si mon fils, ma fille devenait consacré, bah, ça serait peut-être difficile pour la généalogie, bah, je n'aurais pas de petits-enfants. Mais rappelez-vous, monsieur Martin, monsieur, madame, rappelez-vous Saint Joseph et la Vierge Marie. Soyons prêts à tout donner si Dieu demande tout. Car après tout, c'est une bénédiction, un honneur pour une famille que d'avoir la lumière des nations, cette lumière de la vie consacrée qui vient visiter son peuple et dans nos familles. Alors Seigneur, terminons en rendant grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour la vie consacrée qui anticipe le royaume. Merci Seigneur pour la vie consacrée qui nous motive à la radicalité évangélique. Merci Seigneur pour la vie consacrée qui est un vrai témoignage de ta puissance aimante, toi l'époux des âmes et l'époux de l'Église. Merci Seigneur pour la vie consacrée qui nous montre que la seule sécurité, c'est toi. Dieu seul suffit. Merci Seigneur pour la vie consacrée qui nous montre que tu n'abandonnes jamais ton Église, que de génération en génération, tu enverras la lumière des nations, la vie consacrée, qui proclame au peuple le primat de ta puissance. Alors, frères et sœurs, bonne suite de mois de février. Prions bien pour les vocations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Chers auditeurs, c'était notre émission Tout sur la vocation. Vous étiez avec le Père Jean-Marie Parra. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.